franceinter.fr.
Ils représentent les premières traces de notre présence sur Terre. Ce sont les déchets que nous éparpillons aux quatre coins du globe. Ils sont en effet partout, enfouis sous terre ou naviguant sur la surface des océans. Ils symbolisent la transformation de notre planète en une poubelle géante, à tel point que nous vivons aujourd'hui une crise du déchet unique en son genre. Alors que le Mucem de Marseille propose en ce moment l'exposition « Vie d'ordures », le chercheur Baptiste Mont-Saint-Jean publie « Homo Detritus » aux éditions du Seuil pour nous interpeller sur notre société du déchet. Il est mon invité dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une bonne nouvelle pour les travailleurs dauphins et orques qui bossent en France.
Et donc une mauvaise nouvelle pour les parcs qui présentent ces animaux au public, puisque l'arrêté ministériel validé hier et qui vise à améliorer leurs conditions de captivité signe à long terme la fin de cette pratique. En tout cas, c'est l'avis de notre invité, le vétérinaire Claude Beata.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise aujourd'hui cette tête au carré.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Homo Detritus, une critique de la société du déchet aujourd'hui dans notre dossier avec vous, Baptiste Mont-Saint-Jean. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on connaissait l'Anthropocène, cette période géologique qui marque l'impact de l'homme sur la nature. Vous, vous proposez plutôt que l'on parle du Poubellocène. On vit quoi en ce moment dans le poubellien supérieur, c'est ça?
Ouais, c'est une sorte de trait d'esprit pour reprendre un trait d'humour qui a été fait par des géologues dans les années 70, précisément autour de cette distinction entre poubellien inférieur, un monde sans plastique, et le poubellien supérieur, un monde avec plastique. Alors, à l'heure de l'Anthropocène, pourquoi pas parler de Poubellocène, effectivement.
Ouais. Et ça montre l'ampleur du phénomène.
Une ampleur globale, effectivement, sur tous les continents, dans tous les océans. On a des traces de nos présences détritiques partout. Ouais.
Et c'est un livre qui raconte, entre autres, cette histoire des déchets, hein, depuis notre sédentarisation jusqu'à aujourd'hui, et la façon dont on prend en charge, justement, ce problème. On en discute dans un instant autour de cet ouvrage Homo Detritus et avec les messages des auditeurs. Les dauphins et les orques peuvent espérer voir leurs conditions de vie, de captivité, en captivité s'améliorer en France. C'est aujourd'hui à la une de la science.
Mais ce qui captive le plus, ce sont les dauphins. Que certains vont avoir le privilège d'approcher de très près. Tous découvrent la douceur de cette peau caoutchouteuse.
Voilà, c'était au Marineland d'Antibes en 2013, une expérience inoubliable pour certains, mais qui ne sera désormais plus possible en France, puisqu'un arrêté interministériel validé hier interdit la nage et le contact du public avec les dauphins ou les orques. Une avancée logique au vu de nos connaissances grandissantes sur le bien-être animal. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Claude Beata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire spécialisé en médecine du comportement. Quelle a été votre réaction, Claude Beata, à la lecture donc de ces nouvelles règles qui encadrent désormais la captivité des cétacés dans les parcs de loisirs?
Tout ce qui va dans le sens d'une amélioration du bien-être ne peut être qu'accueilli très favorablement. Hein. Quand on connaît l'intelligence et les capacités cérébrales de ces animaux, tout ce qui va dans le sens réellement d'une meilleure qualité de vie pour eux, je l'accueille très volontiers.
Alors, on va citer quelques-unes des mesures adoptées hier dans le texte. Une augmentation de 150% de la taille des bassins, une augmentation des profondeurs minimum, un enrichissement des bassins avec des courants, des vagues et des cascades. C'est un plus, mais est-ce que c'est vraiment significatif pour ces animaux?
Vous savez, on peut penser à ce qui s'est passé à un moment pour les poules, ce qu'on appelle l'éthique du bien-être utilitariste. Une cage de poule, c'était la taille d'une feuille A4, et après des mois de discussion, on est passé à une taille de feuille A4 plus 10%. Pour les dauphins, là, c'est plus 50%, donc c'est bien mieux. Les dauphins, ça peut nager 100 km dans la journée, ça peut, donc bien évidemment, on n'atteindra jamais cette qualité de vie naturelle, entre guillemets. Attention quand même à pas faire trop de, d'être trop dans un monde idéal. Dans la nature, la vie est très très dangereuse et très douloureuse aussi pour les individus. Là, ils sont dans un milieu qui est beaucoup plus protégé, mais qui évidemment ne peut pas leur apporter les conditions d'un épanouissement total.
Et le contact avec le public avait vraiment des impacts négatifs sur ces animaux, pardon?
Ah, je crois que le contact avec le public, il avait, c'était très très tue très très secret, mais il y avait de temps en temps des actions agressives de la part des dauphins, comme de tout animal qui peut d'un seul coup avoir une action agressive et qui avait réellement du danger à certains moments. Et c'était très peu prévisible pour les soigneurs, parce que d'un seul coup un dauphin prenait quelqu'un en mauvaise part et pouvait l'attaquer, et là ça pouvait être très dangereux.
On a entendu parler aussi de cas extrêmes, des orques qui attaquent leurs dresseurs, parfois les tuent. Est-ce que vraiment la captivité peut justifier ce genre de comportement chez les animaux ?
Je crois qu'il faut faire la part entre deux choses vraiment très différentes. La captivité, elle entraîne une souffrance psychologique, on peut parler vraiment de mal-être, hein, d'atteinte au bien-être, puisqu'elle ne permet pas d'exprimer la cinquième liberté du bien-être qui est l'expression des comportements naturels, et donc elle va induire de l'anxiété, elle va induire des états d'anxiété, des états de dépression qui sont évidents, on le voit par exemple chez les orques avec la fameuse nageoire caudale qui se replie, qui montre que ces animaux ne sont pas en équilibre. C'est totalement différent par exemple de ce qui s'est passé avec Tilikum qui était un orque qui a provoqué plusieurs accidents mortels et qui lui avait des épisodes que je vais qualifier pour aller vite de folie entre guillemets, qui étaient des épisodes vraiment de psychopathologie extrême, de troubles psychiatriques extrêmes.
Oui, mais on peut vraiment étudier la psychologie d'un animal comme celui-là, Claude Beata ?
On connaît beaucoup de choses sur eux. Il y a des équipes, il y a notamment une équipe australienne qui suit les dauphins dans la baie de Shark Bay depuis plus de 25 ans. Donc on commence à savoir pas mal de choses sur eux, sur leur capacité, et c'est amusant dans le contexte actuel, à nouer des groupes politiques, à faire de la politique, à faire des jugements. Mmh. Donc ils ont vraiment des capacités cérébrales qui sont extrêmement développées. Et comment, ayant ces capacités-là, n'aurait-il pas aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire la possibilité du trouble psychiatrique ?
On fait beaucoup d'avancées scientifiques sur les capacités cognitives des animaux. Est-ce que la captivité et ces parcs de loisirs sont encore défendables scientifiquement aujourd'hui ?
Je crois qu'on va vers leur extinction. J'espère pas des dauphins, mais des parcs. Et on les regrettera pas parce que, mais ils ont correspondu aussi à une époque et ils ont permis de s'approcher de ces animaux et de pouvoir mesurer leur intelligence. Je crois qu'il faut faire là aussi la part entre quelque chose qui devient de moins en moins admissible. On peut pas priver ces animaux de liberté. Tous ces animaux qui sont là sont nés en captivité, hein, donc ils n'ont pas connu autre chose. Ça pose d'ailleurs le problème de leur avenir, hein. Qu'est-ce qu'ils deviendraient si aujourd'hui on ferme les parcs? Et puis il faut faire la part donc à cette philosophie qui doit disparaître et vraiment les efforts faits par les soigneurs, par les gens qui s'en occupent, qui sont généralement dans une passion totale pour ces animaux.
Mais les soigneurs relatent des relations très fortes, on pourrait presque dire du bonheur de la part de ces animaux. Est-ce que c'est réellement du bonheur dont on peut parler ?
Pour moi, l'attachement est un élément majeur pour beaucoup de mammifères. Et chez ces animaux très intelligents, l'intelligence n'empêche pas l'attachement, au contraire. Et il y a donc des relations puissantes qui se nouent, des relations d'affection, d'amitié entre les soigneurs qui travaillent avec eux. Et je pense que cela, en tout cas, ça c'est un élément de leur bien-être. Mais évidemment, ça ne suffit pas.
Oui, Claude Beata, il y a quand même des générations d'enfants qui ont appris à prendre
bien
contact
sûr.
Justement avec ces animaux hein, au travers de ces parcs. Mmh. Est-ce qu'on peut pas déplorer justement la disparition quand même de ces lieux qui sont un premier contact pour ces plus jeunes ?
C'est vraiment quelque chose de très compliqué comme question. Je crois qu'il faut, en tout cas, il faut qu'on trouve le moyen de ne pas perdre contact avec ces espèces. J'entends la plainte sur le bien-être et elle me paraît tout à fait normale. Je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, d'enfants qui ont été totalement bouleversés pour toute leur vie par le contact. Et rien ne remplace réellement le contact. On entendait dans votre reportage personne qui touche cette peau particulière. Alors après, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de bien-être. Il faut qu'on trouve le moyen de ne pas perdre contact avec ces espèces et qu'on ne laisse pas uniquement certains qui seraient autorisés à aller les voir pendant que la masse du peuple, eux, ne pourraient plus avoir contact avec ces espèces qui sont extraordinaires.
Alors, pour en revenir sur l'arrêté validé hier, il y a un point qui signe quand même la fin pure et simple de la captivité des orques, c'est qu'il sera désormais interdit de les reproduire en captivité. Il est déjà interdit de les capturer. On imagine quand même qu'à terme, il n'y a plus de possibilité de montrer ces animaux au public.
C'est ça, on perd cette possibilité-là, mais ce qui m'a amusé, entre guillemets, dans cet arrêté, c'est que la reproduction des orques est interdite, mais pas celle des dauphins.
Il y a une différence ?
Oui, je ne sais pas pourquoi on met cette limite-là. Peut-être une question, alors, encore de taille de bassin, où effectivement on n'arrivera jamais à avoir la taille des bassins qu'il faut pour les orques. Mais j'ai trouvé ça étonnant. Ça, on fait plaisir sans doute à certains et pas à d'autres. Mais voilà, pourquoi faire cette différence entre le grand dauphin et l'orque? J'avoue que j'ai pas de réponse scientifique à ça.
Merci en tout cas pour votre éclairage, Claude Beata, donc, suite
Merci
à cet
à
arrêté interministériel qui a donc validé hier l'interdiction de la nage et du contact du public avec dauphins et orques. Et bonne journée à vous. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, du nouveau sur le front de la recherche sur l'eczéma, cette affection commune de la peau qui touche 10% quand même des adultes, 20% des enfants. Une équipe anglaise de Newcastle vient de découvrir que plusieurs protéines clés dans la réponse cutanée au stress ou à l'inflammation étaient manquantes chez les personnes eczémateuses. Une nouveauté qui devrait permettre à terme de s'attaquer aux racines du problème au lieu seulement d'en traiter les symptômes comme c'est le cas aujourd'hui. Chez les fourmis, les princesses sentent bon dès lors qu'elles sont dans l'œuf. Une équipe de chercheurs indiens vient en effet de démontrer que ce sont les phéromones dégagées par les larves de fourmis en train de se différencier en reines qui permet aux ouvrières de les séparer du reste des autres œufs plus communs et de les chouchouter d'autant plus. Plus fort encore, si une larve venait à se différencier en reine à la mauvaise saison, en hiver par exemple, lorsque les ressources viennent à manquer, eh bien des morsures de la part de ces nounous peuvent stopper immédiatement le processus de différenciation. La fourmi se développe alors comme une simple ouvrière. Et puis pour terminer, nous vous l'avions promise dans la une la semaine dernière, et la NASA l'a publié hier, la vidéo du passage de la sonde Cassini entre Saturne et ses anneaux. Ces images en noir et blanc, malgré leur rendu un peu austère, sont exceptionnelles. Ce sont les images les plus proches de la surface de Saturne que nous n'avons jamais vues, et aussi la plus nette vision des ouragans géants qui naissent à sa surface. Les ingénieurs expliquent que la position de sécurité dans laquelle se met la sonde au moment de son passage et sa vitesse empêche une résolution maximale des images qui sont visibles sur la page Facebook de la Tête au Carré.